Vous êtes Catan, Satan. Tu triompheras sur toute la surface de la Terre. Et ce sera la fin du monde.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, deuxième épisode de notre série consacrée aux cathares. Les cathares, vrais hérétiques ou inventions de l'Église? La question à laquelle nous tentons de répondre avec l'historien Arnaud Fossier, spécialiste de la religion au Moyen-Âge. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que depuis quelques années, le mot cathare est remis en question par les historiens et a même été retiré pour désigner les châteaux de l'Aude et de l'Ariège. Qui étaient les cathares ou qui l'Église désignait-elle par ce nom? L'hérésie que l'Église appelle cathare serait née au XIIe siècle. Mais cela fait déjà plus d'un siècle, autour de l'an 1000, que toute la chrétienté occidentale est secouée par une déferlante de contestations. De plus en plus de chrétiens, laïcs ou membres du bas clergé, dénoncent la richesse, le luxe et la dépravation dans lesquels, à leurs yeux, vit une partie du haut clergé qui accumule des biens et prélève des impôts sur les laïcs, même les plus pauvres. Au XIe siècle, par exemple, dans le nord de l'Italie, près de Milan, un diacre, un certain Arialdo, accuse l'archevêque de débauche et de concubinage, et même de vendre des charges ecclésiastiques. Grâce au sermon enflammé de ce Arialdo, la contestation enfle, se propage et provoque des heurts violents dans toute la région. Finalement, le leader de la révolte sera assassiné, lardé de coups de couteau et son corps jeté dans le lac Majeur. En France aussi, d'anciens prêtres ou moines parcourent à pied le royaume, prêchant dans les villages contre les abus de l'Église. Un certain Henri de Lausanne, par exemple, à l'aspect peu ordinaire, un peu hippie avant la lettre, comme le présente un contemporain. Le visage hagard, des yeux de marin naufragé, cheveux longs attachés, barbu, infatigable à la marche, allant pieds nus même au plus froid de l'hiver, toujours prêt à prêcher, doté d'une voix effrayante, d'une piété et d'un savoir inhabituel, avec une éloquence capable d'amener au remords un cœur de pierre.
France Inter, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Le clergé d'Occitanie est pourri.
Il est pourri, c'est vrai.
C'est parce que le clergé d'Occitanie est pourri, parce qu'il vit dans le luxe et l'opulence, que frère Arnaud et moi, depuis 4 ans, avons parcouru les chemins sans le moindre sou. Plus pauvre que le plus pauvre d'entre vous. Et c'est parce que le clergé d'Occitanie est pourri, parce qu'il est corrompu par la luxure et l'intempérance, que frère Arnaud et moi, depuis 4 ans, ne subsistons que des croûtons de pain que l'on nous jette à la tête, comme à des mendiants.
Mais l'Église catholique ne tolère aucune forme de critique. Tout discours réformateur doit être vigoureusement combattu comme hérétique. L'Église voit bien, par exemple, que l'éloquence de ce Henri de Lausanne séduit les foules. Bernard de Clairvaux, qui est un défenseur de l'orthodoxie, envoyé dans le sud-ouest pour mettre un terme à cette contestation, en constate les désastres. Des églises sans peuple, un peuple sans prêtres, des prêtres privés de la révérence qui leur est due et des chrétiens sans le Christ. Le pauvre Henri de Lausanne sera finalement capturé par l'évêque de Toulouse et emprisonné. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la contestation. Comme le remarque le pape Alexandre III au milieu du XIIe siècle, « Dans la région de Toulouse, dit-il, une damnable hérésie est récemment apparue, qui se diffusant comme un cancer, a déjà infecté un grand nombre de personnes à travers la Gascogne et d'autres provinces. Et se dissimulant comme un serpent tout en ondulation, elle détruit en secret la vigne du Seigneur. Aussi ordonnons-nous aux évêques et à tous les prêtres de ces régions d'être vigilants et d'interdire à quiconque de recevoir des sectataires de cette hérésie. » Arnaud Fossier, comment expliquer l'émergence au XIe et XIIe siècle de ces mouvements de contestation que l'Église appelle hérétiques?
Alors, vous l'avez dit dans la remarquable synthèse que vous proposez en introduction, tout est dit, c'est-à-dire que le contexte est effectivement celui d'une Église qui a tenté de se réformer, mais a peiné à le faire jusqu'au bout, en quelque sorte. Et d'une certaine manière, les multiples hérésies que vous évoquiez, et qui permettent d'ailleurs de remettre en perspective aussi la singularité que l'on donne souvent à l'hérésie cathare, en tout cas que beaucoup d'historiens ont donné à l'hérésie cathare, il faut la remettre en perspective, c'est-à-dire il faut la réinscrire dans un ensemble, dans dans une série de mouvements qui, partout dans la chrétienté, pullulent ou commencent à éclore à ce moment-là. Et leurs caractéristiques communes, on peut en dégager deux. La première, vous l'avez dit, c'est une suspicion croissante à l'égard du clergé et une remise en cause de ses pouvoirs. Et c'est en ça que le contexte de la réforme dite grégorienne, du nom de l'un de ses principaux instigateurs, le pape Grégoire VII, on est dans les années 1070, cette réforme, elle est jugée inaboutie par les hérétiques. C'est-à-dire qu'elle est allée dans le bon sens en tentant de purger le clergé, de le moraliser, mais l'œuvre de cette réforme est imparfaite. C'est-à-dire que les fidèles continuent d'être confrontés à des prêtres corrompus qui monnaient les sacrements, des prêtres débauchés qui se vautrent dans la luxure, le concubinage. Oui, on sait que cette règle justement avait du mal à être appliquée et à être respectée.
Oui.
Et puis, vous l'avez dit aussi, cette réforme, c'est un moment non seulement de sacralisation du clergé, mais en plus, c'est un moment où la rupture entre les clercs d'un côté et les laïcs de l'autre s'accentue, et la réforme grégorienne a consisté à consacrer la supériorité totale du clergé sur les laïcs et à déposséder au passage un certain nombre de laïcs, y compris issus de l'aristocratie, d'ailleurs en fait principalement issus de l'aristocratie, à les déposséder d'un certain nombre de leurs revenus, de leurs bénéfices, des redevances qu'ils prélevaient sur la paysannerie. Parmi ces redevances, la plus connue, c'est la dîme. C'est au XIIe siècle seulement que l'Église met la main sur la dîme. Auparavant, c'est une redevance qui, en fait, est versée
au laïc. La dîme qui est un dixième
de la récolte, exactement, ouais. Qui désormais reviendra à l'Église partout dans la chrétienté. La deuxième caractéristique commune à tous ces mouvements hérétiques, c'est ce qu'on appelle l'évangélisme. La volonté de certains laïcs, ou bien de certains prêtres dissidents, puisque vous le voyez, vous l'avez dit, Henri de Lausanne, c'est un ancien prêtre. C'est un prêtre défroqué. Ce sont des gens qui veulent revenir aux évangiles, à la lettre des évangiles. Mais revenir aux évangiles, ça signifie deux choses. Ça signifie imiter ou se rapprocher le plus possible du mode de vie du Christ et des apôtres, une pauvreté volontaire qui est commune à tous ces mouvements hérétiques. Et puis, ce sont des gens qui vont vouloir se passer du clergé, de la médiation que le clergé jusqu'ici opérait entre le monde terrestre, ici-bas, et puis le monde céleste, oui. L'au-delà.
L'Église sait et le peuple ne sait pas.
Voilà, c'est ça que remettent en cause les hérésies. C'est justement ce monopole du savoir qu'avait l'Église.
Et comment ces contestataires se manifestent-ils ? Est-ce qu'ils font des manifs ? Ils font des, je sais pas, ils se réunissent dans des églises, dans les rues ? Ils poussent un peu la population à se révolter ?
La prédication, incontestablement, joue un rôle. C'est le cas, par exemple, pour quelqu'un comme Henri de Lausanne, un autre aussi hérésiarque, c'est-à-dire le chef d'un groupe hérétique qui est Pierre de Bruy. On est à peu près dans les mêmes années, toujours au XIIe siècle. Ce sont des gens qui prêchent et qui suscitent l'adhésion, voire l'enthousiasme. Les textes que vous avez cités...
Qui viennent de votre livre.
Oui, absolument.
Vous avez reconnu.
Et qui sont des textes vraiment très frappant, hein. La description d'Henri de Lausanne, elle est magnifique.
Ah oui, c'est très beau.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on ne dispose au sujet de ces mouvements hérétiques ou de ces mouvements dissidents qui se mettent en marge de l'Église, on ne dispose que de sources qui ont été écrites par les clercs catholiques eux-mêmes. C'est-à-dire que les hérétiques n'ont pas laissé de documents. Donc, ce sont des sources à manier avec des pincettes, d'une certaine manière. Dans la description que vous avez lue d'Henri de Lausanne, il y a à l'évidence, une part d'exagération,
oui,
d'amplification aussi de l'importance justement de l'ennemi. On reviendra sur la construction de la figure de l'ennemi.
Et puis on sent que celui qui parle, il a peur.
Bien sûr. Et il s'agit aussi de susciter la peur des lecteurs. Alors pour le dire vite, à l'époque, qui est-ce qui écrit sur les hérésies ? Ce sont les moines.
Et ceux qui lisent aussi, bien sûr.
Les moines, pourquoi ils produisent des descriptions aussi effarantes et horrifiques des hérétiques ? C'est d'abord pour susciter la peur, mais c'est aussi parce que ils vont trouver là le moyen de redéfinir ce que c'est que l'Église, ce que c'est que d'être un catholique, en quoi on doit croire quand on est catholique et en quoi on ne doit surtout pas croire.
Il faut obéir.
Il faut obéir, bien sûr.
Oui, c'est ça. Et ces hérétiques, comme l'Église les appelle, ce sont des contestataires, mais est-ce qu'ils remettent en question le dogme ?
Non, ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui ne remettent pas du tout en cause le dogme chrétien. simplement, ils remettent en question la hiérarchie ecclésiastique, au nom notamment, comme je le disais tout à l'heure, de motifs moraux, donc d'une dénonciation de l'immoralité ou de la non-exemplarité du clergé. Et puis, ce sont des gens qui veulent pratiquer leur foi autrement. Mais leur foi reste fondamentalement chrétienne.
Merci Arnaud Fossier, on poursuit cette discussion dans le prochain épisode. Nous verrons ce qui caractérise, vrai ou faux, l'hérésie des cathares, ou en tout cas ce que l'Église catholique en a dit.